Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 8 novembre 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le nouveau président élu, Donald Trump, a procédé jeudi à sa première grande nomination, choisissant une femme au poste très stratégique de chef de cabinet de la Maison-Blanche. Des frappes aériennes de l'armée tchadienne contre Boko Haram ont fait beaucoup de morts et de blessés dans les rangs djihadistes. Au Botswana, le nouveau président Duma Boko a prêté serment, mettant fin à 60 ans de règne du parti au pouvoir dans ce petit pays d'Afrique australe. Plusieurs personnes ont été blessées jeudi en marge d'un match de football à Amsterdam dans des heurts qualifiées d'explosion d'antisémitisme. Et dans notre partie magazine en Afrique, les réactions autour de Donald Trump à la Maison Blanche sont mitigées.
Nous allons devoir fermer ces frontières et nous allons devoir laisser les gens entrer dans notre pays. Nous voulons que les gens reviennent.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président élu des États-Unis vient de procéder à sa première grande nomination. Donald Trump a choisi une femme, Susie Wiles, au poste très stratégique de chef de cabinet de la Maison-Blanche. Il a affirmé par ailleurs qu'il pensait parler bientôt au président russe Vladimir Poutine. Jacques Aristide.
Susie Wiles, 67 ans, architecte de la campagne de Donald Trump, va ainsi devenir la toute première femme chef de cabinet de la Maison-Blanche, a souligné le futur 47e président américain. Susie est coriace, intelligente, créative, admirée et respectée partout, a déclaré le républicain Trump, qui a commencé à mettre en place son équipe de gouvernement. Parmi les noms cités figurent Robert F. Kennedy Jr., ancien candidat indépendant rallié à Donald Trump, qui pourrait se voir confier des responsabilités dans la santé publique. Une autre personnalité devrait être le milliardaire Elon Musk. Le président élu pourrait charger l'homme le plus riche du monde de réorganiser profondément l'administration fédérale. En attendant, lors de l'entretien accordé à la chaîne NBC, Donald Trump a été interrogé sur la Russie. « Je pense que nous allons nous parler avec Vladimir Poutine », a-t-il indiqué. Alors que le président sortant, Joe Biden, premier soutien de l'Ukraine face à l'invasion russe, a rompu les ponts avec son homologue russe. Le président Poutine s'est de son côté dit « prêt à reprendre le contact avec Donald Trump » qui prêtera serment le 20 janvier prochain.
Au Tchad, le président Mahamat Idriss Déby Itno a fait le bilan de l'opération Hirhaskanit en riposte à une attaque de Boko Haram contre l'armée tchadienne à côté de la frontière nigériane. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le président Mahamat Déby Itno avait personnellement lancé l'opération Askanit en riposte à une attaque de Boko Haram contre l'armée tchadienne près de la frontière nigériane. Bilan positif selon le chef de l'État tchadien.
Nous avons lancé par la voie aérienne. Nous avons fait plusieurs frappes des positions ennemies. Ils ont eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés.
Pour combattre les groupes djihadistes, le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad ont mis en place en juillet 2015 une force multinationale mixte de 8500 hommes évoluant dans le bassin du lac Tchad. Cette vaste étendue d'eau et de marécages parsemée d'îlots abrite les combattants de Boko Haram ou de sa branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Le président Déby a déploré le manque de solidarité de ses voisins.
Pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous n'avons pas de soutien?
La priorité désormais, c'est la protection du peuple tchadien, assure Mahamat Idriss Déby Itno.
Le peuple tchadien m'a élu pour cela. Donc, pour moi, il est temps que l'armée se concentre sur la protection de nos citoyens et de notre territoire.
Les soldats tchadiens sont souvent visés par les attaques de Boko Haram. En mars 2020, le groupe djihadiste avait mené une offensive sanglante sur une base militaire dans la même région, faisant une centaine de morts.
Le ministère soudanais des Affaires étrangères a accusé vendredi les paramilitaires des forces de soutien rapide d'avoir causé la mort de 120 civils en deux jours dans l'état d'Al Jazeera. Le syndicat des médecins soudanais a déclaré qu'après avoir pillé les biens des habitants d'Al Hilaliya, les miliciens ont détenu plusieurs personnes à l'intérieur des mosquées, ne les autorisant à partir qu'après avoir payé de grosses sommes. Pour leur part, les paramilitaires font état de plus de 60 morts dans un raid aérien de l'armée au Darfour. Au moins 30 personnes ont été tuées au Mozambique depuis le début des manifestations dénonçant des fraudes lors des élections du 9 octobre, selon Human Rights Watch. Trois membres du parti Podemos, auquel est adossé Venancio Mondlane, sont par ailleurs portés disparus, selon le président de cette formation politique. Des milliers de personnes, de partisans, avaient répondu à l'appel du principal opposant, Venancio Mondlane, qui revendique la victoire. Au Botswana, le nouveau président Duma Boko a prêté serment son vendredi, 10 jours après sa spectaculaire victoire aux élections générales face au parti au pouvoir depuis près de 60 ans, lançant une alternance inédite dans ce pays d'Afrique australe. Le point avec Jean-Roger Billon.
Duma Boko, 54 ans, a été investi devant plusieurs milliers de personnes dans le stade de la capitale Gaborone lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les présidents de plusieurs pays de la région, dont Madagascar, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. « Ensemble, nous inaugurons une nouvelle ère politique », a déclaré à la foule l'avocat spécialiste des droits de l'homme, parvenu au pouvoir après plusieurs décennies dans l'opposition. Le Botswana a donné l'exemple d'une véritable démocratie à l'œuvre pour que le monde entier puisse la voir et l'imiter, a vanté le nouveau chef de l'État. La coalition de gauche qui soutient Duma Boko, Umbrella for Democratic Change, a remporté la majorité absolue avec 36 sièges au Parlement lors du scrutin du 30 octobre contre 4 pour le Botswana Democratic Party. Une spectaculaire déroute pour ce parti qui dirigeait ce petit pays riche en diamants depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966.
L'Algérie a démenti jeudi des informations selon lesquelles elle aurait décidé des mesures restrictives aux échanges avec la France. Le communiqué fait référence à une publication sur X de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui affirmait que pour remercier la France, l'Algérie décide de bloquer toutes les importations françaises et les exportations vers la France. Les relations entre Alger et Paris traversent une nouvelle phase de turbulence après l'annonce fin juillet de l'appui de Paris au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental. Un homme suspecté d'être à la tête des passeurs impliqués dans le naufrage du bateau de migrants qui a fait au moins 25 morts la semaine dernière entre les Comores et l'île française de Mayotte a été arrêté. Le suspect a reconnu être le propriétaire du bateau et avoir acheté tout le matériel nécessaire au voyage, a indiqué le colonel de gendarmerie Ahmed Tachfine, précisant qu'il s'agissait d'un Comorien de 37 ans et résident de Mayotte. L'homme risque jusqu'à 10 ans de prison selon le code pénal comorien.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un premier avion transportant des Israéliens évacués d'Amsterdam après des heures jeudi en marge d'un match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv a atterri ce vendredi à Tel Aviv. Le point avec Dilidico.
Plusieurs personnes ont été blessées hier dans ces violences qualifiées d'explosion d'antisémitisme par Femke Halsema, maire de la ville d'Amsterdam, vers laquelle Israël a dépêché des avions pour rapatrier ses citoyens. Une porte-parole des autorités aéroportuaires, Lisa Dvir, a déclaré qu'un premier vol pour rapatrier les Israéliens d'Amsterdam est arrivé à Tel Aviv. La maire d'Amsterdam a fait état de personnes qui ont frappé des supporters de l'équipe israélienne avant de prendre la fuite sur des scooters. Elle a également annoncé un renforcement des mesures de sécurité ainsi qu'une interdiction temporaire des manifestations. Largement déployée avant le match, la police néerlandaise était sur le qui-vive car un drapeau palestinien a été arraché la veille d'une façade sur une grande avenue du centre-ville. Les forces de l'ordre ont fait état de 5 personnes brièvement hospitalisées et de 62 arrestations. Les autorités néerlandaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête. L'ONU et l'Union européenne ont exprimé leur indignation après ces violences à Amsterdam.
La force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, a accusé vendredi l'armée israélienne d'avoir endommagé une de ses positions dans le sud du pays dans une action décrite comme délibérée et directe. Les faits qui se sont produits jeudi interviennent après sept autres incidents similaires perpétrés par l'armée israélienne, a déclaré la FINUL dans un communiqué. Il ne s'agit pas de soldats de la paix pris entre deux feux, mais d'actions délibérées et directes de la part de l'armée israélienne, ajoute-t-elle. Et puis le chancelier allemand Olaf Scholz s'est déclaré ouvert vendredi à des discussions pour accélérer l'organisation d'élections anticipées après la chute de sa coalition gouvernementale. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Nyoko Resource Corporation, société de Coris Invest Group du Burkinabé Idrissa Nassa, veut prendre le contrôle de la société britannique Hummingbird Resource. Nyoko propose de porter sa participation en convertissant un prêt non garanti de 30 millions de dollars fourni par CIG en actions Hummingbird. Cela lui donnerait une participation de près de 72%. Si ce projet se concrétise, les mines d'or Yanfolila au Mali et Kourousa en Guinée deviendront entièrement la propriété de CIG. Le fonds souverain minier du Ghana va investir 2 millions de dollars dans Castol Minerals pour un projet minier de graphite dans le cadre d'un programme pour produire localement des batteries au lithium. Le financement permettra de poursuivre le développement de Cambalé. L'accord prévoit que le MIF aura le droit préférentiel d'acheter jusqu'à un maximum de 50% de la production de graphite estimé à 1,9 million de tonnes. Le salon Ecomondo à Rimini en Italie se referme ce vendredi. Ces quatre jours ont permis des échanges sur les technologies vertes, l'agriculture et l'économie circulaire. Plusieurs pays africains sont parmi les participants, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Hier s'est tenu le forum Croissance verte en Afrique dans le cadre du plan Mattei. Cette édition a vu la participation de 1600 entreprises et de dizaines d'organisations internationales et associations professionnelles.
Place maintenant sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Doublé pour Victor Osimhen et Amad Diallo en Europa League.
Oui, l'attaquant international ivoirien Amad Diallo a inscrit deux buts hier permettant à Manchester United de battre le PAOK Salonique de la Grèce 2-0. Doublé également pour le buteur nigérien Victor Osimhen pour Galatasaray, vainqueur de Tottenham 3-2. C'est la première défaite de Tottenham du Malien Yves Bissouma en Ligue Europa après 3 victoires. Dans les autres matchs, l'Eintracht Francfort a battu le Slavia Prague 1-0 grâce à un but de l'Égyptien Omar Marmouche en seconde période, tandis que la Roma d'Indica, l'autre Ivoirien, a été tenu en échec 1-partout à l'Union Saint-Gilloise. L'Athletic Bilbao est venu à bout de Ludogorets 2-1 pour rester invaincu avec 3 victoires et 1 nul. Nice a fait 2-partout avec Twente, les deux équipes ayant terminé le match réduite à 10.
Et puis Amin Adli prolonge avec Leverkusen.
L'attaquant international marocain a prolongé son contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu'en 2028. Amin Adli, qui souffre actuellement d'une fracture du péroné gauche subie en octobre, a joué 126 fois pour le Bayer, marquant 21 buts et délivrant 22 passes décisives. Le joueur de 24 ans a joué un rôle clé la saison dernière dans le doublé Bundesliga Coupe d'Allemagne, le tout premier titre de champion du Verkless. Le tout premier titre de champion du Verkself, le 11 de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé par le chimiste Bayer en 1904. Cette saison, Leverkusen est pour l'instant 4e du championnat allemand à 7 points du Bayern après 9 journées et 13e de Ligue des champions après 4 journées.
Et enfin, ici en NBA, Damian Lillard relance les Bucks.
Après 6 défaites consécutives et un début de saison raté, les Milwaukee Bucks ont rebondi face au Utah Jazz, autre équipe en difficulté, 123-100. Le meneur Damien Lillard a brillé avec 34 points et 7 passes décisives aux côtés de Gianni Antetokounmpo, 31 points et 16 rebonds. Les San Antonio Spurs ont conquis leur 4e succès de la saison face à Portland, 118-105. Minnesota est venu à bout de Chicago, 135-119. Toujours ici en NBA, Bronny James
fils et coéquipier de la star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a été envoyé hier dans l'équipe réserve de la franchise qui évolue en J-League, le championnat de développement de la NBA.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le programme de Donald Trump, élu 47e président des États-Unis, se compose de ses promesses de campagne qu'il dit vouloir tenir pendant son second mandat. Elles ont trait à la sécurité des frontières, la consolidation de l'économie et sa priorité donnée à l'Amérique. Ces promesses sont vues comme audacieuses. Des analystes estiment toutefois que peu de détails existent pour l'heure quant à leur mise en œuvre. Tina Trin nous en dit davantage. Le récit est de Jacques Aristide.
Il est désormais clair que nous avons accompli la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé, c'est fou, n'est-ce pas?
La sécurité des frontières demeure pour le président élu une priorité absolue. Donald Trump a déclaré qu'il entamerait la plus vaste opération d'expulsion de criminels venus de l'étranger de l'histoire américaine. Il a également appelé à la peine de mort pour tout migrant qui tue un citoyen américain ou un agent des forces de l'ordre. Le soir de son élection, M. Trump a prononcé un discours de victoire dans lequel il a réitéré son projet pour les 4 prochaines années. Le ton a été qualifié de moins dur.
Nous allons devoir
fermer ces frontières et nous allons devoir laisser les gens entrer dans notre pays. Nous voulons que les gens reviennent. Mais nous devons le faire, nous devons les laisser revenir, mais ils doivent entrer légalement.
Le vice-président élu, J.D. Vance, a abordé un autre point important du programme de M. Trump.
Et après le plus grand retour politique de l'histoire américaine, nous allons mener le plus grand retour économique de l'histoire américaine.
Nous allons rembourser la dette, nous allons réduire les impôts.
Pour certains, il est moins clair comment la nouvelle administration va atteindre ses objectifs économiques sans aggraver un déficit déjà croissant. Mais le président élu a mentionné une personnalité qui pourrait aider, le magnat de la technologie Elon Musk, qui, selon M. Trump, dirigerait une commission d'efficacité gouvernementale pour endiguer le gaspillage fiscal et la fraude. M. Trump a commenté le récent lancement de la fusée Starship d'Elon Musk.
Et c'était une belle chose à voir. J'ai appelé Elon, je lui ai dit, Elon, c'était toi? Il a répondu, oui, c'était moi. J'ai dit, qui d'autre peut faire ça? La Russie peut-elle faire ça? Non. La Chine peut-elle faire ça? Non. Les États-Unis peuvent-ils faire ça à part toi? Non, personne ne peut faire ça. J'ai dit, c'est pour ça que je t'aime, Elon.
Des observateurs sont d'avis que les éloges de M. Trump à l'égard d'Elon Musk vise à projeter sa force et sa puissance sur la scène mondiale. Stéphanie Alice Baker, du département de sociologie de City, Université de Londres.
Cette question de savoir si nous sommes le seul pays capable de faire cela, oui, nous sommes le seul pays capable de faire cela, et je pense que Trump est capable d'utiliser cette image de Musk, non seulement comme un entrepreneur technologique, mais aussi comme un visionnaire, comme un génie, pour soutenir cette idée qu'il avance non pas en tant qu'individu, mais en tant que nation.
Dans son discours, M. Trump a fait part de son principe directeur en vue de son nouveau mandat.
Je gouvernerai selon une devise simple, promesses faites, promesses tenues. Nous allons tenir nos promesses.
L'une de ces promesses est celle que le président élu décrit comme l'âge d'or de l'Amérique.
En Afrique, les réactions au retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sont mitigées. Certains sont enthousiastes et impatients de voir la suite. D'autres se souviennent de son premier mandat et n'attendent pas grand-chose de sa nouvelle administration. Mariam Diallo, chef du bureau de VOA à Nairobi, nous en dit plus. Le récit est de Lionel Lunanila Gaïma.
Dans les rues de Nairobi, certains Kenyans espèrent que la victoire de Donald Trump va être une bonne chose pour l'Afrique. Maximilian Detti, supporter de Trump.
Je m'attends à ce qu'il se passe beaucoup de choses entre les deux pays sur le plan économique, peut-être des programmes d'échange pour les étudiants, des choses comme ça.
Eric Mwenda, lui, soutenait l'adversaire de Trump, la candidate démocrate Kamala Harris.
Parce qu'elle comprend les gens, j'ai l'impression que l'autre est un peu raciste. Il est très méchant.
Le Kenya est le premier pays africain à avoir été élevé récemment au rang d'allié américain non membre de l'OTAN par l'administration Biden, qui s'est également engagé à verser 300 millions de dollars pour aider la police kenyane à diriger une force multinationale en Haïti. Edgar Gitwa enseigne les relations internationales, la diplomatie et la sécurité à l'université de Strathmore au Kenya.
Il pourrait commencer à publier des décrets qui annuleraient, par exemple, la désignation du Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Il pourrait simplement réduire les efforts de construction post-conflit en Haïti. 300 millions de dollars ont été promis. Je ne sais pas combien ont été versés jusqu'à présent, mais il se pourrait qu'il se dise que ce n'est pas son problème et qu'il en réduise l'ampleur.
Il ajoute que d'autres politiques pourraient également être modifiées en fonction du pays.
Des pays comme l'Ouganda en bénéficieront parce que Trump ne fera pas vraiment pression sur eux, comme l'a fait l'administration Biden en raison de leur position et de leur discours LGBTQ+. Mais d'un autre côté, la Russie a vraiment fait de fortes percées dans la région du Sahel et d'autres parties de l'Afrique. Trump ne va pas lever le petit doigt pour arrêter les Russes.
Tom Wolf, chercheur et analyste politique, a assisté à une soirée de veille électorale organisée par Democrat Abroad à Nairobi. Il a déclaré qu'au vu du premier mandat de Trump, il ne pense pas que ce dernier soit intéressé par la promotion de la démocratie et des droits de l'homme sur le continent en général et au Kenya en particulier.
En termes de promotion de la concurrence commerciale et économique et d'encouragement au développement de liens entre les entreprises américaines et kenyanes, je m'attends à ce que cela se poursuive.
Martha Karua, colistière du leader de l'opposition Raila Odinga lors des élections générales de 2022 au Kenya, se souvient du premier mandat de Trump au cours duquel il a parlé de l'Afrique en utilisant un langage dégradant.
J'ai plus d'espoir dans ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Mais Trump n'a pas fait de très bons commentaires sur l'Afrique. Il nous a traités de tous les noms, mais il est de la responsabilité des dirigeants africains de faire pression pour que les partenaires avec lesquels nous travaillons nous respectent et nous reconnaissent comme des êtres humains égaux.
L'investiture du président Trump est prévue pour le 20 janvier.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'offensive du M23 a forcé de nombreux éleveurs du territoire de Masisi à fuir pour trouver refuge dans la plaine de la Rusizi au sud de Kivu. Malgré leur volonté de reprendre leurs activités, ces éleveurs font face à des conditions climatiques difficiles qui limitent la production de lait. Sur place, une coopérative locale plaide pour un accompagnement plus soutenu afin de permettre aux éleveurs. Le reportage de notre correspondant sur place, Zanem Neti Zaidi.
En RDC, la guerre a bouleversé de nombreuses vies et pour les éleveurs du territoire des Masisi, l'instabilité provoquée par l'offensive du M23 les a forcés à un exil vers le sud Kivu. Aujourd'hui, dans la plaine de Rusizi, ils tentent de reconstruire leurs activités d'élevage. Mais ici, le climat et les conditions de vie sont bien différents, limitant leur production laitière. Irumba Jackson est un éleveur déplacé des Masisi. Pour lui, chaque litre de lait est précieux dans cette région où les ressources sont limitées.
Je suis en train de traire les laits avec cette vache. Je vais obtenir 2 litres, mais il y a des vaches où je peux traire 3 ou 4 litres. La quantité de lait dépend de la race et de l'âge. Par exemple, cette vache ne peut pas produire 4 litres. C'est une vache âgée, mais des jeunes vaches peuvent produire jusqu'à 4 litres.
Sans les vaches des races améliorées, la production de lait reste faible. La coopérative Coopatu, coopérative agricole Tungane, qui accompagne les éleveurs dans la plaine de la Rusizi, fait face à des défis quotidiens pour transformer les laits en produits comme le fromage. Kidume Elvis, technicien de la coopérative Coopatu, explique les difficultés rencontrées par les éleveurs pour assurer un rendement rentable.
Ici, dans la plaine de la Rosisie, nous n'avons pas de vaches de race améliorée capables de produire une grande quantité de lait. Pour obtenir un seul fromage, il nous faut 10 litres de lait. Nous achetons les 10 litres à 10 000 francs congolais, mais même avec un prix de vente de 5 dollars, le rendement est très faible.
Conscient de ces obstacles, l'organisation AgriTerra, une agence agricole internationale à but non lucratif, s'engage aux côtés des éleveurs pour les aider à relancer et diversifier leurs activités, notamment en développant la production des fromages. Fabrice Terragna, de l'organisation AgriTerra, explique leur vision pour soutenir les éleveurs déplacés des Masisi et renforcer la filière laitière.
Masisi qui produisait des fromages qui alimentaient autant la ville de Goma et la ville de Bukavu est aujourd'hui en difficulté à cause de l'insécurité. Maintenant, du moment que la plaine de la Rosisi sait nous offrir aussi ce genre d'opportunités, nous en avons saisi. C'est pourquoi nous avons été parmi ceux-là qui ont encouragé les coopératives laitières à pouvoir diversifier leurs sous-produits, notamment avec les fromages.
Pour ces éleveurs de Masisi, le chemin est encore long, mais grâce à l'appui d'organisations comme AgriTerra et des coopératives locales, la résilience se construit jour après jour. La production laitière au Sud Kivu pourrait bien devenir une nouvelle source d'espoir et de prospérité pour toute la région. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le Bénin a renforcé en 2021 son arsenal juridique sur la santé sexuelle et à la reproduction. L'objectif du gouvernement est de réduire significativement les décès maternels à travers l'avortement médicalisé, la promotion des méthodes de planification familiale et la mise à la disposition des jeunes d'informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. Mais 3 ans après, l'ambition du gouvernement se heurte à de nombreuses pesanteurs socioculturelles. Le point avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Même la loi sur l'embauche n'a pas autant nourri les débats que celle sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Les réfractaires pointent du doigt l'assouplissement des conditions d'accès à l'interruption volontaire du grossesse.
Avorter un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal, surtout que si vous le faites consciemment.
Dans la Bible, c'est clair, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Il est hors de question qu'un homme reprenne la vie.
S'il arrivait que je me retrouve dans un cas pareil, j'en assume la responsabilité.
Le gouvernement qui défend ce nouveau test trouve qu'il est jugé un peu trop hâtivement.
Cette étape du développement qu'est l'adolescence est marquée entre autres par la précocité des rapports sexuels, la précocité des grossesses non désirées et les complications des avortements provoqués. Un décès sur 5 survient chez les adolescentes.
Mais il n'y a pas que l'IVG qui est mise à mal et perçue comme un terrain fertile à la dépravation. Le fait que l'information sur la sexualité soit mise à la portée des jeunes aussi dérange. Les jeunes filles parlent ici des obstacles qui les empêchent de recourir aux services de santé sexuelle et reproductive.
Non, les filles, y compris moi, on ne discute pas de santé reproductive sexuelle avec nos parents. Ils n'aiment pas nous en parler, ils disent que ça ne nous concerne pas. Les parents veulent avoir toujours leur mot à dire. Cette situation ne nous permet pas d'être libres, d'être autonomes, de dire ce qu'on pense véritablement à l'intérieur de nous.
Pour accompagner le gouvernement et contourner les difficultés des partenaires comme l'UNFP, Plan Bénin et des associations de la société, des professionnels de santé innovent avec une application dénommée Elle qui s'adresse aux filles et aux garçons.
Nous sommes demandés à notre échelle en tant que regroupement de professionnels de santé, que pouvons-nous faire pour briser les tabous? Et c'est la réponse à cette question que nous donnons à travers l'application Elle, une application qui est téléchargeable librement sur toutes les plateformes et qui permet aux filles et femmes d'avoir l'information fiable sur leur santé et bien-être et d'être orientées vers les professionnels de santé.
Développée par Dr Viviane Oki, doctorante en médecine et membre de la...
C'était donc notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé. Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.